aussi le créateur des mondes, et plus encore qu'il ne cesse pas de l'être, minute après minute, seconde après seconde, et que dans le court moment où il dévoile de façon si énigmatique le secret de sa double nature et lui parle de l'eau vive, il embrasse d'un seul regard l'histoire de l'univers du début à la fin. « Je me souviens de cette idée », se dit Klein. « C'était une idée du fou. Et je ne vous demande pas de le croire, peu m'importe votre foi, seul Dieu connaît la foi, ne vous défendez pas d'imaginer. Dans ce monde différent que vous apercevez alors, les extrêmes prennent un autre sens, la raison et la folie, la vie et la mort. Ce fut la seule allusion à la folie. Ensuite il reprit un ton plus dépouillé et parla simplement de la misère et de la pauvreté des malades. Puis il osa deux phrases sur l'amour du prochain et sur l'amour tout court. Vaguement agacé, Klein murmura à l'oreille d'Augustin, « L'amour, oui, il prétendait pouvoir baiser 15 fois par nuit. Pas étonnant qu'il soit devenu fou, je me demande si c'est vrai, on trouvera sûrement une dame dans l'assistance pour le confirmer, répondit Pierre, leur recueillement avait assez duré. Le provincial, des jésuites abusait de leur patience, ils auraient aimé lui faire un signe de la main, comme ces châtelaines du début du siècle dans les églises de campagne, qui manifestaient ainsi au curé, fil d'un de leurs fermiers, le désir de le voir abréger son prêche. Le père Philibert traitait à présent de Dieu et des nations. Et les nations, disait Alcossé, l'italien encule, l'espagnol glisse, l'allemand pleure, l'anglais s'abstient et le français débande. Le français débande toujours, voilà ce qu'il disait des nations. Je m'en souviens très bien. Klein en souriait encore, comme s'il les avait surpris, le prêtre conclut sur ce qui est invisible pour les yeux. Il rappela le goût du professeur pour la chartreuse, qui n'était pas le goût de la paix, croyait-il, mais le goût des combats les plus durs, ceux de la solitude et de l'office de nuit. Dans l'esprit d'Augustin, les images se heurtaient comme celles d'un rêve, le grand massif enneigé de Voiron, l'hôpital Sainte-Anne, la maison d'éternité, qui, il le tenait de Nathanaël, est le nom que les anciens Égyptiens donnaient à leur tombeau. Madame Alcossé gardait les yeux fixés sur le cercueil. Enfin le prêtre retourna s'asseoir et se tint là, immobile et pensif, comme s'il avait été seul. La bénédiction finale suivie de l'oraison de Saint Augustin, « Ant oculo tuo domine, culpa nostra ferimus et plaga casaxpimus confrimus ». L'assistance n'attendit pas que le cercueil fût sorti pour quitter l'église. Il n'aurait pas agi autrement pour une messe du dimanche. Les travées se vidaient dans l'allée centrale, et c'était à présent le bruit d'un piétinement qui s'élevait vers les voûtes. Dehors il faisait toujours aussi froid. En arrivant au cimetière du Père Lachaise, les chevaux du corbillard prirent brutalement le galop, et malgré les efforts du cocher, passèrent sous le porche dans un bruit de tonnerre pour s'arrêter au milieu de l'allée centrale. La famille et les derniers amis rejoignirent le mort échappé. Sur la fosse ouverte, ce fut au tour du curé de Sagua-la-Grande de lire l'absoute et de prononcer quelques mots, en espagnol. 14 Romains pour succéder à Alcossé, 3 candidats furent mis en lice par les principales factions hospitalières. Hermangia était si gros que lorsqu'il opérait, la penseuse lui tenait le ventre au-dessus du champ opératoire. Une ou deux fois par heure on le faisait uriner dans un bocal, en le soutenant au moyen d'une pince. Il gâcha ses chances en déclarant à propos de Lacombe qu'il ne voudrait pas d'un chef à tête de paysan d'Édouard. Pierre monta efficacement le service contre lui, empêchant sa nomination. Prunier était toujours en avance d'un temps. Caustique, brillant, rapide, minuscule, il confondait un peu le monde et son jugement sur le monde. Il lui arrivait souvent de précéder un mouvement qui pour finir ne se produisait pas. Alors, au lieu d'y songer, il enfourchait l'idée suivante, avec le même mépris pour ses détracteurs. Parfois, il avait raison, mais curieusement il ne s'en vantait pas. Il aimait mieux en effet bouger que triompher. Ses pairs étaient peu sensibles aux beautés de cette course en avant. Il disait de lui, « Il est porté sur son intelligence comme sur un tapis volant ». Malheureusement il n'y a pas de tapis volant. Ils ne retinrent pas sa candidature. Le troisième Voroshin, portait le nom connu d'un ancien médecin du tsar Alexandre son père, était l'élève de Hartmann et avait étudié la pathologie avec Paul Reclus, mais bien qu'excellent clinicien, il passait pour original, consacrant trop d'heures à la sculpture et à l'astronomie. Il avait fait installer sur le toit de sa maison, en Champagne, une splendide coupole que les paysans venaient en troupe admirer le dimanche et, de l'avis général, c'était assez d'un alcossé. On ne sait jamais avec les Russes. En désespoir de cause, la faculté se rabattit sur Augustin Pierre. Il était savant, efficace, dévoué, on lui promettait une grande carrière. Il avait seulement, contre lui d'être trop jeune, et de ne pas porter un nom connu. De plus son maître, et pour cause, ne pouvait plus intriguer pour lui comme il est d'usage. Le dentu qui enseignait alors à l'hôpital Necke balaya les obstacles et emporta la nomination. Ainsi Pierre était-il parvenu au sommet sans donner trop l'impression de l'effort. Il paraissait chercher, dans son travail, le plaisir sous des formes inédites. Passant la visite des 6 heures, déjeunant d'un pain de 2 sous, c'était bien Dupuytren qu'il s'efforçait d'imiter, ou plutôt c'était cet exemple qu'il avait choisi pour s'élever au-dessus de lui-même, car il était sans illusion. Il fit venir auprès de lui, pour faire équipe avec Lacombe, Charles Lenormand. C'était le petit-fils d'un archéologue féru des monuments d'Égypte et de Chaldée que Mérimée avait tenu en haute estime. Son fils lui-même, le père de Charles, auteur à 14 ans d'une.